C'était ce dimanche, la Journée internationale des droits des femmes, et on parle féminisme avec vous, Elie Spiegel-Farstein, pour cette séquence hebdomadaire à la Une d'Académ. Bonjour.
Bonjour Elsa. Fascistes, sionistes, hors de nos luttes féministes. Voilà ce que nous avons entendu scander lors de la marche pour les droits des femmes dimanche 8 mars. Des collectifs féministes, tels que Dupin et des Roses et Féministes Révolutionnaires, ont tout fait pour isoler le collectif juif Nous Vivrons et les empêcher de participer à la marche officielle. Nous Vivrons a malgré tout réussi à défiler sous la banderole Liberté, Égalité, Sororité, mais non sans heurts, à Paris comme à Marseille. Cette scène, nous la connaissons bien, car elle avait déjà eu lieu l'année dernière, à la même occasion. Ce qui diffère cette année est sans doute l'organisation, le soin mis à bloquer à tout prix le collectif. C'est d'ailleurs ce dont se félicite aujourd'hui le regroupement des associations féministes qui salue l'éviction de Nous Vivrons comme une importante victoire politique, fruit d'une considérable mobilisation unitaire. En témoigne la tribune publiée sur le site Politis quelques jours avant la marche qui rassemblait les plus importants collectifs féministes ainsi que d'éminentes personnalités du combat pour le droit des femmes. Dans ce texte de rassemblement, les organisations féministes se présentaient naturellement comme antifascistes puisque l'antifascisme est dans l'ADN même d'un mouvement d'émancipation collective. Or, elles se présentaient également et de manière tout aussi naturelle comme antisionistes. Par conséquent, ce texte appelé au blocage du groupuscule d'extrême droite Némésis et à celui du collectif Nous Vivrons, placé ainsi au même plan. Sommes-nous véritablement étonnés? Hélas, pas vraiment. Cela fait 2 ans à présent que nous sommes plusieurs à analyser le lexique et le logiciel d'une partie de la gauche pour laquelle sioniste signifie, à sa racine même, fasciste, impérialiste. Et cela indépendamment de la politique de Netanyahou et des luttes internes à la vie politique israélienne. Le simple fait d'accepter l'existence d'Israël, comme État juif, vous assimile à un ou une fasciste génocidaire. Précisément, dans la tribune mentionnée, le collectif Nous Vivrons est accusé d'être pro-Israël, c'est-à-dire, selon elle, d'être un, je cite, « soutien inconditionnel de la colonisation et de l'oppression du peuple palestinien qui harcèle la gauche et les anticolonialistes ». Fin de citation. Et leur volonté de participer au 8 mars est perçue par elle comme une provocation réactionnaire qui consiste à, je cite encore, venir à la marche pour pouvoir ensuite accuser les féministes pro-palestiniennes d'antisémitisme. Fin de citation. Pourtant, le collectif Nous Vivrons est un mouvement sioniste, au sens où il soutient l'existence de l'État d'Israël. Il accueille des militants de sensibilités politiques diverses, mais qui se réunissent tous et toutes autour de la lutte contre l'antisémitisme et de la dénonciation des viols commis contre les femmes israéliennes le 7 octobre. Cette dénonciation-là n'est pas prise en charge par les organisations féministes, cela nous le savons aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons reçu, à Académ, la juriste internationale Céline Bardet, fondatrice de l'ONG We Are Not Weapons of War, qui lutte contre les crimes sexuels commis lors des conflits et dénonce l'utilisation du viol comme arme de guerre. Dans un entretien qui sera disponible vendredi prochain, elle raconte l'enquête qu'elle a menée autour des crimes sexuels commis le 7 octobre.
Et là, on a commencé à être attaqué, moi d'abord personnellement et l'ONG. Mais moi, je n'ai pas. Mais là, je parle du 8, 9, 10 octobre. Hein. Je veux dire, on n'est même pas dans une réponse à Gaza, on n'est pas dans le climax de Gaza. On est. Et en fait, on m'accuse d'être. Pro-israélienne, on m'envoie des trucs juristes de Tsahal, et surtout on nie tout. On nie tout. On demande des preuves. Mais on avait déjà des vidéos, on avait déjà plein de choses. Jamais de ma vie, quand la guerre en Ukraine a commencé, on m'a demandé des vidéos de viol ou si j'avais des preuves. Jamais sur aucun. Donc là, je n'ai pas compris. Ça a été extrêmement violent. En fait, ce que j'ai compris après, c'est que tout ce travail et toutes ces années, et je ne suis pas la seule, de dire on t'écoute, on écoute les victimes. Après, bien sûr qu'on documente, bien sûr qu'il faut corroborer, bien sûr que parfois des choses sont fausses. Ce n'est pas la question, c'est mon métier ça. Mais on écoute ce qui se passe. Et bien là, j'ai compris qu'en fait, il y avait des victimes qu'on n'écoutait pas de la même manière. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup marquée, c'est que quand je suis arrivée en Israël, j'ai rencontré les mouvements féministes des femmes israéliennes. Et je le dis dans mon livre, je suis une femme, je ne suis pas juive, j'ai vu leur détresse, la manière dont elles se sont senties abandonnées, quoi. Alors, après avoir vécu le 7 octobre, ou quand même le degré de la violence du 7 octobre. Et là, j'ai eu une honte, mais quelque chose de... Mais je vraiment, personnellement, ça m'a traversée. Et je suis rentrée en France et j'ai parlé aux organisations féministes. Et j'ai des organisations féministes qui m'ont dit « Non, mais c'est un peuple colonisateur, à supposer que ça soit arrivé. » Parce que la chance que j'ai, c'est que je suis quand même assez respectée dans mon métier, donc ça a sauvé un peu des choses. « À supposer que ce soit arrivé, de toute façon, elle le méritait. »
Des féministes.
Des féministes, des gens de mouvements féministes.
Voilà donc ce qu'a constaté Céline Bardet. Les femmes juives ne sont pas écoutées comme les autres femmes au sein des mouvements féministes. Et la marche du 8 mars n'est que la énième manifestation du problème antisémite au sein des mouvements de gauche, pour qui les juifs sont uniformément des fascistes et la lutte contre l'antisémitisme assimilée à une offensive réactionnaire. Pour une femme juive cible des deux oppressions à la fois, l'antisémitisme d'une part et la violence misogyne de l'autre, les espaces sécurisants sont très réduits. Le concept sociologique d'intersectionnalité forgé par l'afroféministe américaine Kimberlé Crenshaw pour penser le lieu spécifique de combinaison de deux oppressions est plus que jamais à mobiliser.